Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Pour une fois, voici une enquête criminelle plutôt rigolote, c'est assez rare pour en profiter. L'enquête sur le vol en août 1949 sur la Côte d'Azur des bijoux de la Begum, la femme de l'Aga Khan, l'homme le plus riche du monde. Une bouillabaisse marseillaise de la meilleure facture, que j'ai en grande partie écrite en m'inspirant du livre de Jean Pax Meffray chez Pygmalion, « Le vol des bijoux de la Begum ». Il sera là tout à l'heure. Thomas Audouard m'a aidé à écrire cette histoire. Réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Dans cette histoire, la Begum se fait voler ses bijoux. Ciel ! Et donc il faut que je vous explique tout de suite qui est la Begum. Connaissons au passage que c'est un nom rigolo. Begum rouge, Begum vert, Begum comme bégonia. Bref, je m'égare. La Begum, donc, est traditionnellement l'épouse de l'Aga Khan. Et l'Aga Khan, c'est le chef religieux, l'imam, d'une branche de l'islam qu'on appelle les Ismaéliens Nizarites. Une branche qui a émergé en Iran au début du 19e siècle. L'Aga Khan serait le descendant direct d'Ali, le gendre de Mahomet. Et on est Aga Khan de père en fils. Notre histoire a lieu durant l'été 1949. À cette époque, il s'agit du prince Aga Khan III. Il a 72 ans et il est au bout du rouleau. Il en est à sa quatrième épouse, sa quatrième Begum. Et c'est une Française, figurez-vous, née Yvonne Labrousse. Beaucoup plus jeune, bien sûr. 38 ans, c'est-à-dire 34 ans de moins que lui. Jolie, évidemment. Elle a été Miss France en 1930. Et si elle a succombé au charme de l'Aga Khan, ça n'est pas pour son minois. En 1949, le prince Aga Khan III est tout simplement l'homme le plus riche du monde. De quoi attirer les convoitises. Au mois d'août 1949, l'Aga Khan et sa ravissante épouse viennent de passer quelques jours dans leur villa du Canet, sur la Côte d'Azur, la villa Yakimo. Et ils décident d'aller poursuivre leurs vacances à Deauville. Eh oui, les courses. L'Aga Khan a des chevaux, bien sûr. Et donc ils chargent leurs nombreux bagages dans leur Cadillac et ils prennent la direction de l'aérodrome de Cannes où les attend leur jet privé. C'est leur chauffeur qui conduit. Il emprunte une route étroite et sinueuse à travers les collines de l'arrière-pays niçois. Le prince est sur le siège passager à l'avant et la Begum est assise à l'arrière avec sa dame de compagnie Frida. Et soudain, un cycliste leur coupe la route. Il se met à zigzaguer, impossible de le doubler. Le chauffeur klaxonne, mais à la sortie d'un virage, la route est carrément barrée. Une traction avant noire est garée en travers. Deux hommes coiffés de béret basque descendent de la traction. Ils se ruent sur la Cadillac. L'un d'eux ouvre la porte arrière. « Et vous, là ? Soyez braves. Donnez-moi les bijoux et envoyez la monnaie. » Le prince Aga Khan donne sa montre et son portefeuille. Et la Begum tend à regret une petite mallette rouge qui se trouve à ses pieds. Ses bijoux. Et là, autant vous dire qu'ils ne viennent pas du manège à bijoux de chez Leclerc. Hein. Les braqueurs crèvent les pneus de la Cadillac. Ils montent dans l'attraction. Et bye bye. Et l'Aga Khan, son chauffeur, sa Begum et la dame de compagnie sont contraints de rentrer à pied à la villa Yakimo. Évidemment, comme tout le monde, vous voulez savoir ce qu'il y avait dans la petite mallette rouge, hein? Alors, dans la mallette à bijoux, il y avait trois bracelets en brillant, un clip en émeraude et rubis, et surtout, il y avait, oh oh oh, la marquise, un diamant de 22 carats, un solitaire unique par sa taille. Valeur totale, 220 millions de francs de l'époque. Ce qui, si on tient compte de l'inflation, fait dans les 7 millions d'euros d'aujourd'hui. Joli coup. Très joli coup. Et ça n'est pas le premier de l'été. Le 1er août, 25 millions de francs ont été dérobés à Aix-en-Provence. Et le 2 août, 200 millions de francs de bijoux sont volés chez Van Cleef et Arpel, à Cannes. Évidemment, dès que la police est prévenue, elle mobilise un commissaire, Jean Aiglen. Enfin, la Gacan, c'est le moins qu'on puisse faire. Il ordonne qu'on installe immédiatement des barrages sur les routes, dans un périmètre de 100 km autour de Cannes. Le chauffeur a noté la plaque d'immatriculation de l'attraction. On ne sait jamais. Mais la voiture est retrouvée vide, à Cannes, dans le quartier de la Californie. Dedans, ils ont oublié un béret basque. Les plaques étaient évidemment fausses. D'après son numéro de châssis, l'attraction a été volée il y a 6 mois, à Marseille. Mais est-ce qu'un commissaire, ça suffit? Non. Le directeur général de la police judiciaire, Georges Valentin, est en vacances à Antibes. Il interrompt ses vacances. Et tant qu'à faire, le directeur régional de la police à Marseille, le commissaire Mével, s'y colle aussi. Puisque la voiture a été volée à Marseille, il a peut-être sa petite idée. Le lendemain et le surlendemain, la Gacan, la Bégum et leur chauffeur sont interrogés à plusieurs reprises. Bien, je vais vous montrer, mesdames et messieurs, un album photo. Hein ? Vous avez vu les voleurs ? Est-ce que vous les reconnaissez, là ? Regardez bien. Sous leurs yeux, la trogne de tous les bandits de Marseille. Ça fait quelques pages, hein ? On est plus proche du bottin que de la feuille de messe. Quoi qu'il en soit, ils n'en reconnaissent aucun. La compagnie qui assurait les bijoux, la Lloyds, propose une récompense de 20 millions à qui permettra de retrouver les bijoux. Bah oui, sinon c'est 220 millions qu'il va falloir qu'ils sortent. Et l'Agacan lui-même, bon prince, rajoute 5 millions. Autant d'argent dans cette région à cette époque, ça crée des vocations. Des dizaines de Marseillais et de Niçois se mettent à écrire au commissaire pour apporter leur témoignage et réclamer de l'oseille. Faut faire le tri. Ça prend du temps. À la Villa Yakimour, en attendant, l'ambiance n'est plus à la fête. Quelqu'un a renseigné les braqueurs. Sur le trajet, sur l'heure, sur la date, sur la nature de la cargaison surtout, sur la présence dans la mallette de l'un des plus gros diamants du monde. Du coup, tout le personnel est soupçonné. Les jardiniers, les cuisinières, les femmes de chambre, la police judiciaire les interroge un par un. Et en l'absence de piste, pour l'instant, le meilleur indice, c'est la voiture, la traction avant. Elle a donc été volée à Marseille. Alors les policiers marseillais secouent leurs indices comme des pruniers. Rien ne tombe. Mais au sujet de la voiture, il y a peut-être un fil à tirer. La batterie, elle est neuve. Ils ont changé la batterie après avoir volé la voiture pour ne pas tomber en rade avec leur butin. Donc ce sont des pros. Et sur la batterie, il y a un numéro de fabrication. Alors les policiers appellent le grossiste, qui leur désigne le garagiste qui l'a vendu. Et ils vont voir le garagiste. La batterie ? Ah mais je ne l'ai pas changée moi-même. Moi je l'ai juste vendue. Le gonz, il a dû l'installer lui-même. C'est pas bien compliqué à faire, hein. Et vous savez à qui vous l'avez vendu? Ah, mais ça, monsieur le commissaire, franchement, je me souviens plus. Sur le papier, c'est possible, hein, qu'il ne se souvienne pas. Mais à l'intuition, le commissaire Valentin ne le croit pas. Alors il envoie un de ses hommes secouer le garagiste. Et finalement, miracle, ça me revient d'un coup, là. C'est au gros Roger que je l'ai vendu la batterie. Il y en a qui l'appellent le juif, d'autres prépuce. Moi, je l'appelle le gros Roger. Mais je peux pas vous en dire plus. Hein. Pas la peine d'en dire plus, monsieur. À la police judiciaire de Marseille, on sait très bien qui est le gros Roger. Prépuce, tout un programme. Roger Sénanège. Toujours dans les mauvais coups. Mais c'est une petite main. C'est ce qu'on appelle un cave. Ce n'est certainement pas lui qui a monté un coup comme ça. En attendant, un mandat d'arrêt est décerné contre lui. Ça se complique quand le commissaire Valentin, un matin au petit déjeuner à son hôtel en lisant Nice Matin, découvre que les gars de la Tyler sont sur le coup. Il en boufferait son journal.
Oh nom de Dieu, de nom de Dieu !
La Tyler, c'est une agence de détectives anglaise. Elle a été mandatée par la Lloyds, l'assureur de l'Aga Khan. Et d'après ce que dit le journal, il serait sur une piste, un réseau américain. Les bijoux de la Begum seraient en route pour les États-Unis. Vrai ou faux, ça agace beaucoup le commissaire Valentin, beaucoup. D'autant qu'il se murmure qu'un commissaire de la PJ de Paris donne un coup de main au Rosbif. Le commissaire Hugues, que le ministère de l'Intérieur aurait aimablement mis à disposition des Anglais. Sans prévenir, bien sûr. Et c'est l'Aga Khan. Cette enquête débute en tout cas dans une sympathique ambiance de rivalité. Et ça n'est jamais propice à une enquête sereine. Toutes les polices de la planète Terre ont maintenant les photos des bijoux, ce qui devrait compliquer un peu le boulot des receleurs. Et à la fin du mois d'août, le gros Roger n'est toujours pas logé. C'est normal, son nom est partout dans les journaux, il se planque. Mais un autre nom apparaît le 10 août dans le journal Le Monde. Je vous lis. Monsieur Paul, ce redoutable personnage qui s'évada l'an dernier de la prison Saint-Pierre, aurait fait dernièrement plusieurs apparitions à Marseille et de nombreux déplacements vers la frontière italienne. Ce grand seigneur de la pègre, qui dédaigne les opérations d'importance secondaire et qui aurait réussi à reconstituer des équipes décapitées par la capture récente de leur chef, est soupçonné fortement d'avoir monté la grosse affaire du Canet. Monsieur Paul. Paul Leca. Pour dire la vérité, depuis le début, les policiers marseillais se disent qu'il peut en être, que ça lui ressemble. Et donc il faut trouver qui il a pu recruter. Et donc la PJ secoue à nouveau ses indices. Et début janvier, un tonton, un certain Jean-Thomas Guidicelli, révèle deux noms.
Vous devriez vous intéresser à François San, hein? Et puis aussi à Barthélémy Ruberti, hein?
Les deux sont coffrés immédiatement et cuisinés aux petits oignons. Hein, et à un moment, le commissaire leur demande s'ils connaissent Roger Sénanège, le gros Roger.
Le gros Roger? Oh ben ne cherchez pas le gros Roger, il est mort. Hein. C'est pas lui qui a braqué les bijoux, c'est moi. Et je peux même vous dire que j'ai été très poli avec la princesse. Hein.
Le gros Roger aurait été liquidé par ses complices parce qu'il en savait trop. Ce qui, au passage, ouvre une enquête pour meurtre. La suite de l'interrogatoire est très musclée. Hein. On sort la machine à baffes. Et François Sana balance toute l'équipe, du haut jusqu'en bas. Paul Leca, Monsieur Paul, c'était bien le grand chef. Ruberti a joué le rôle du cycliste. Sana et un certain Benedetti ont fait le braquage. Et il y avait aussi un Paul Mondoloni, armé d'une mitraillette. Et le gros Roger, qui conduisait l'attraction. Benedetti et Mondoloni sont arrêtés. Et ils rejoignent Ruberti et Sana en prison. Il ne manque plus que Monsieur Paul et les bijoux de la Begum, bien sûr. A priori, ils sont ensemble. Vous avez remarqué que jusqu'ici, c'est la police judiciaire de Marseille qui a fait le boulot. Et le commissaire Valentin de la brigade criminelle de Paris est un peu ronchon, au point qu'il a fini par rentrer à Paris. Très énervé que son ministère, sans le prévenir, ait affecté un autre commissaire auprès des détectives anglais de la Tyler, mobilisés par l'assureur, la Lloyd. Et puis à un moment, un peu calmé, il décide de redescendre à Marseille. Et il débarque pile au moment de la perquisition de l'appartement de Monsieur Paul, Paul Lake. Et dans l'appartement de Lake, il fait une sacrée trouvaille. Un petit carnet dans lequel Monsieur Paul a noté avec soin des noms, des numéros de téléphone et des adresses. Le commissaire le feuillette page à page et il bute sur un nom.
Pierre Berthaud ? Oh nom de Dieu, Pierre Berthaud.
Il faut dire qu'il y a de quoi à s'étouffer. Pierre Berthaud est le directeur de la police nationale. C'est un préfet. C'est son patron. Que fait son numéro de téléphone dans le carnet de Monsieur Paul ? Non. Il serait dans le coup ? Il serait derrière le vol des bijoux ? Et là se produit quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Le 26 janvier, sur les coups de 20 heures, devant le commissariat de Marseille, le planton remarque un petit paquet sur une marche. Il le ramasse. Sur le paquet, il y a une étiquette. Monsieur le commissaire, virgule, à ouvrir en présence de Monsieur Sacotte, juge d'instruction. Le commissaire fait appeler le juge. Il arrive. Ils ouvrent le paquet. Des bijoux! Des bijoux enveloppés dans du papier de soie, avec un petit mot griffonné. Voilà les bijoux de la Bégum. Le reste a été enlevé par ses nanèges. Ça alors? On a rendu les bijoux de la Bégum. À moins que ce ne soit des faux. Le juge désigne immédiatement un expert bijoutier. Il a bien fait. C'est du toc. Quelqu'un se moque. Mais qui? Au cas où, le lendemain à 9h, le commissaire fait faire une contre-expertise dans le bureau du juge. On confie les pierres et les bijoux à 3 joailliers. Il les pèse, il les observe sous toutes les coutures, à la lumière du jour, à la lumière d'une lampe. Et à 11h30, ils rendent leur verdict d'une seule voix.
Alors, nous avons recensé une émeraude de 14 carats, un brillant rond de 8 carats et demi, une émeraude de 6 carats, 13 brillants ronds de 30 carats, 199 brillants montés en barrette d'un total de 114 carats, un lot de brillants pour un total de 142 carats, et 4 émeraudes qui pèsent ensemble 18 carats. Vous voulez dire, messieurs, que ces bijoux sont vrais ?
Ah oui, oui, ça on ne peut plus vrai, monsieur. Le premier expert s'était trompé. Et vous avez remarqué qu'il manque une pierre, hein ? La plus grosse, la plus rare, la plus chère, la marquise, un diamant de 22 carats. Mais bon, ne mégotons pas, il y en a quand même là pour 150 millions de francs. C'est dingue. On a rendu les bijoux de la Bégum, comme ça, cadeau, cadeau à la police. C'est pas banal comme issue, ça. Évidemment, le commissaire Truchy de Marseille prévient immédiatement la Lloyd's. Et le lendemain, dans le journal, un avocat marseillais, Maître Chiappe, prétend qu'il a été consulté par les malfaiteurs et que c'est lui qui leur a conseillé de rendre les bijoux. Ce jour-là, le commissaire Valentin n'est pas là. Il est au fond de son lit, il est malade. Mais il se tient au courant. Et il ne croit pas un mot de l'issue de cette enquête. Depuis qu'il a vu le nom de son patron, Berthaud, dans le carnet de Monsieur Paul, ça l'obsède. Il est sûr que Berthaud est derrière tout ça, le directeur de la police nationale. Il paraît en plus qu'on l'a vu récemment sur le Vieux-Port. Le sac de nœuds entre commissaires se complique quand le commissaire Valentin se met à réclamer la prime. La prime promise par la Lloyd à qui ramènera les bijoux. Et ça met son collègue marseillais Truchy en pétard.
Tu veux récupérer 600 000 francs ? Écoute, c'est une avance, simplement c'est pour mon indicateur. Quel indicateur ?
Ça, je peux pas dévoiler son identité. Un indicateur ? Tu parles ? Valentin veut se mettre les 600 000 dans la poche, oui. Et ça se complique encore quand en avril 1950, la presse se met à parler de Berthaud. et a suggéré que la marquise, le solitaire de la Begum, est dans le coffre du ministère de l'Intérieur. L'affaire des bijoux est en train de virer au règlement de compte. Quand Berthaud, patron de la police, apprend que le commissaire Valentin se répand sur son compte, il prend la décision de le limoger. Valentin est furibard, il se défend dans la presse. Je lis. Les entraves apportées par M. Berthaud à sortir l'affaire de la Begum, qui devait mettre si cruellement en lumière ses relations avec les gangsters, n'est-ce pas pour protéger ses amis en fuite et éloigner le chef de la police judiciaire? J'en tiens des preuves à votre disposition. Le ministère lui rappelle dans la foulée que ça n'est pas à lui d'enquêter sur sa hiérarchie, que pour ça il y a les boeufs carottes, la police des polices. Et donc le 6 juin, le commissaire Valentin est démis de ses fonctions. Mais ça n'est pas fini. Le 12 juin 1950, un courrier arrive dans le bureau du juge d'instruction. C'est Monsieur Paul Leca. La lettre vient d'Italie. « Je n'ai jamais, de près ou de loin, été mêlé à l'affaire des bijoux de la Begum. Je me suis mis à l'abri pour éviter une erreur judiciaire. » Valentin boit du petit lait. « Bien sûr que ce n'est pas Monsieur Paul, puisque c'est Berthaud !» Et puis arrive le procès, qui s'ouvre le 6 juillet 1953 devant le tribunal d'Aix-en-Provence. En présence, s'il vous plaît, de la Begum, qui débarque en Cadillac couleur prune. Dans la salle d'audience, le nombre des avocats est impressionnant. Ils sont 26. Et ce qui saute aux yeux dès le début, c'est qu'il manque le cerveau présumé, le chef de bande, Monsieur Paul. Sans qui le procès perd de son sel. On ne juge que des exécutants, des seconds couteaux, des demi-selles. Le public n'attend bien sûr qu'une seule chose. L'audition de la Begum, qui débute assez mollement.
« Monsieur le Président, je ne pourrais rien raconter que les jurés ne sachent déjà. Pourriez-vous, madame, reconnaître votre agresseur parmi les accusés ?»« Oui, oui, lui. »
Elle en désigne un seul, François Sana.
Et la marquise, madame, même retaillée, vous pourriez la reconnaître? Enfin, c'est-à-dire, oui, peut-être.
Le président exhibe alors une pierre retrouvée chez un joaillier et qui pourrait être la marquise retaillée. Elle la regarde longuement, elle hésite, elle l'oriente vers la lumière qui entre par la fenêtre de la salle d'audience.
Ah oui, c'est elle, hein? J'en suis certaine, c'est elle.
Ce qui voudrait dire qu'il ne manque plus de pierres. Elles ont toutes été retrouvées. Et donc la marquise n'est pas dans le coffre du ministère de l'Intérieur, comme le pense le commissaire Valentin, ni dans la poche de Monsieur Paul. Du coup, on attend avec impatience la déposition du commissaire Valentin, qui a lieu le lendemain. Lui, il n'a pas bougé. Il a été viré de la police, il pense toujours que Berthaud, le directeur de la police, est derrière le braquage des bijoux.
« Vos accusations sont graves, monsieur. Vous parlez sans preuve. »
Peu importe, Valentin ne lâche rien. Il s'enferre dans ses spéculations. Et pour vous dire la vérité, tout le monde le prend pour un dingue, pour un raté qui se fait mousser. Son obsession lui a fait perdre toute crédibilité. Mais voilà justement que Berthaud, le directeur de la police, qui a su par la presse qu'il s'était fait tailler des croupières au procès, veut témoigner. Il a écrit au président, il demande à être entendu. Mais le président refuse, ce qui est assez logique, enfin, on est clairement hors du champ du procès. Et au final, Valentin n'a pas tout perdu, puisque le préfet Pierre Berthaud, directeur de la police nationale, est suspendu de ses fonctions. Le dernier jour du procès, Sana, qui est le seul accusé que la Begum a formellement identifié, présente ses pâles excuses.
« Je regrette beaucoup mon vilain geste. Moi, j'étais parti pour un vol à la tire. Hein? J'aurais jamais cru que ça prenne une splendeur si grande. »
La salle éclate de rire. Il a confondu splendeur et ampleur. Le jugement est rendu. Sana, Benedetti et Ruberti, qui ont participé au braquage, écopent de 10, 8 et 6 ans de travaux forcés. Les grands absents, Leca, Mondoloni et Senanec, le gros Roger, au cas où il ne serait pas mort, sont condamnés par contumace aux travaux forcés à perpétuité. Après le procès, Valentin est réintégré dans la police, mais sans affectation. Et Pierre Berthaud, finalement mis hors de cause, est réintégré lui aussi. Quant à M. Paul Leca, il finit par se rendre, en mai 1960, après des années de cavale aux États-Unis. Il prend 2 ans de prison et meurt dans son lit en 1966. Le prince Aga Khan III meurt en juillet 1957 et la Begum lui fait bâtir un mausolée à Assouan, en Égypte. Elle mettra beaucoup de temps à l'y rejoindre. La Begum est morte en l'an 2000, à l'âge de 94 ans, dans sa villa Yakimour, du Canet. Oh, ça fait du bien de temps en temps de raconter des histoires qui ne sont pas tristes et tragiques. J'ai très envie de savoir pourquoi, Jean Pax Méfré, cette histoire-là vous a intéressé. Vous avez longtemps été journaliste au Figaro Magazine, et votre spécialité, c'est le politico-judiciaire. Mm-hmm. Bon, là, il y a du judiciaire, il n'y a pas des masses de politico. Ou alors, vous croyez à la thèse du commissaire Valentin?
Non, mais il y a... Tout ça se passe sur fond de guerre, quand même. Il ne faut pas oublier que la guerre... C'était... 5 ans plus tôt, c'est encore la guerre se termine, que Valentin, qui n'a jamais été dans la police judiciaire, a été nommé directeur de la PJ parce qu'il présidait la commission d'épuration, que Berthaud, qui a été nommé par Jules Moc à la direction de la sûreté urbaine, de la police d'aujourd'hui, quoi. Berthaud est très opposé à Valentin.
Donc il y a une guerre antérieure, c'est ça qui vous a intéressé?
C'est ça qui intéresse. Et puis alors, de savoir que ce qui s'est passé souvent pendant la guerre, c'est que des résistants ont été internés dans des camps avec des voyous.
Oui.
Et des amitiés.
Ce sont les.
Et c'est ce qui s'est passé avec Paulo Leca.
Et c'est donc ça qui nourrit la suspicion de Valentin, en vérité?
Non, ce qui nourrit la suspicion de Valentin, d'abord, que Berthaud appelle le hanneton.
Oui.
Ce qui nourrit la suspicion de Valentin, c'est que ce type est un aigri. Il se croit encore président de la commission d'épuration, où il avait le droit de tout.
De vie et de mort.
Oui, tout à fait. Et surtout de supprimer les carrières. Et il n'accepte pas Berthaud, parce que Berthaud le renvoie à chaque fois à sa place, et il décide de s'attaquer à Berthaud. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se passe quelque chose de très important quand même au procès, c'est que Berthaud vient témoigner. On lui demande.
Il finit par venir.
Ah, il vient, oui, tout à fait. Il vient et le. Enfin, il y a un autre grand moment, c'est quand Valentin dit l'homme, la tête pensante du braquage de la Begum, c'est Pierre Berthaud.
Il dit ça comme ça. Il se croit autorisé à le dire. C'est parce qu'il se sent puissant.
Oui.
Ouais.
Et puis il dit ça devant la barre, quoi. Et quand Berthaud, lui, est entendu, alors on lui parle de son amitié avec Leca.
Oui.
Et il explique. Et il dit...
Il explique pourquoi on trouve son numéro dans le petit carnet.
Tout à fait.
Il dit quoi?
Mais il dit surtout ce qui le lie à Leca. Il dit, j'ai fait la connaissance de Leca dans ce camp d'internement, c'était près de Toulouse. Des voyous voulaient nous poignarder un soir, Leca est intervenu. Et
je lui dois la vie.
Oui, on lui doit la vie. Et en plus, et il dit une chose qui est quand même, pour un directeur de la police qui parle d'un voyou, c'est assez fort. Il dit, Leca a le sens de l'honneur. Et le président du tribunal, le président des assises ne comprend pas. Il lui dit, mais comment vous, directeur de la police, pouvez dire ça d'un truand? Il dit, j'ai dit qu'il avait le sens de l'honneur et pas le sens de l'honnêteté.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est une génération de voyous qui ne ressemble pas du tout à la génération d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait les beaux mecs.
Oui. C'était les beaux mecs. Et puis, alors, Leca, il avait allié il avait fait triompher, finalement, le vice sur la vertu, puisqu'il était. Il avait épousé la fille du président de la Société des auteurs. Il vivait à Marseille, il avait un yacht sur le vieux port et il recevait tout le gratin marseillais à sa table, quoi. Et il était inséré dans la société marseillaise, il faisait partie des... Et puis les Marseillais, ils aimaient bien à l'époque s'encanailler, quoi. Avoir un voyou dans ses relations, ça posait.
Il y a un truc qui peut surprendre les gens qui ne réalisent pas qui est l'Aga Khan, qui est un personnage. Il y a toujours un Aga Khan aujourd'hui,
oui.
Mais il a perdu un peu de
Ils ont surtout perdu
de l'argent.
Quand les Ismaéliens se sont rendus compte que les sous qu'ils donnaient à l'Aga Khan étaient destinés à créer des écuries de course...
Ils ont cessé de lui donner.
À faire les fêtes, ils en ont donné beaucoup moins.
Ben, on est surpris malgré tout par la manière dont finalement le pouvoir semble se mettre au service de l'Aga Khan.
Oui.
C'est dingue.
Oui. Oui, parce que.
Parce qu'il est riche, quoi.
Je crois, oui. C'était...
Tout simplement.
Et elle, c'est une femme étonnante aussi, quand même.
Elle est comment? Elle est idiote?
Ah non, pas du tout. Elle est
futée.
D'abord, elle se convertit à l'islam.
Oui.
Avant de rencontrer l'Aga Khan. Parce que lorsque la guerre éclate, elle est en Égypte, elle reste en Égypte, à la cour du roi Farouk.
Oui.
Et là, alors, c'est dans le faste, le luxe, et effectivement, c'est un mariage d'amour. Quand on voit la photo, d'ailleurs, où ils sont côte à côte, on comprend.
On comprend que c'est un mariage d'amour. Oui. Lui, il est au bout de sa vie,
oui,
et elle, dans la plénitude.
Ils ont 30 ans d'écart, mais... Et puis, ils ont une bonne dimension. Elle fait près de 1m90 par là. Et ouais. Lui, il est tout juste à 1m60, quoi.
Alors, Jean Pax, mes frères, évidemment, j'ai plein de petites questions comme ça parce que c'est marrant à raconter. Puis, on comprend pas tout, même en le racontant soi-même, si on n'a pas le dessous du dessous de tout ça. Et le contexte historique est intéressant. Pourquoi est-ce que Valentin s'étouffe quand il découvre que l'un de ses subordonnés, un autre commissaire, a été mis au service des détectives privés de la Tyler, qui défendent les intérêts de la Lloyds dans cette affaire? Pourquoi il est furieux?
Bah, il est furieux parce que j'imagine, il ne dit pas pourquoi, mais parce qu'il pensait pouvoir gérer cette affaire.
Ouais.
Et là, c'est la police marseillaise, et la police marseillaise, c'est à elle, c'est grâce à commissaire Truchy qu'on
trouve les gars.
Les bijoux, parce que ils sont...
Avec Valentin, on ne les aurait probablement pas tirés.
Pas du tout.
Avec la Taylor non plus. Non,
mais Valentin fait ses enquêtes avec sa femme.
Oui. Ah bon?
Et son fils.
D'accord. Oui. Dans sa voiture.
Oui, tous les trois. Comme dans les films. Sont pas. Oui, oui, mais c'est assez étonnant. Oui. Mais il comprend pas que d'autres policiers s'intéressent à cette affaire. Cette affaire, c'est à lui.
Oui. L'ECA, Monsieur Paul, il a reconnu à un moment donné qu'il était à la tête de cette équipe ou pas?
Oui. Alors Paulo L'ECA, c'était un petit homme. Les voyous de cette époque.
C'était pas des baraques, hein.
Non, il faisait 1m60, 65. Et comme le fameux voyou corse qu'on appelait le séminariste et qui exécutait ses victimes au chalumeau, il faisait 1m50 aussi.
Ouais,
Et le cas, lui, il avait été mêlé à l'attaque du train d'or à Marseille.
Ouais.
Et l'attaque du train d'or, c'est une attaque qui avait rapporté beaucoup de bijoux et de diamants, enfin, qui avaient été volés. Il s'était fait sa réputation sur cette attaque du train d'or, donc il était respecté.
C'était le boss, quoi.
Ah ouais, c'était l'homme qui faisait les coups. Après, bon, après l'affaire de Marseille, il était parti, il s'est sauvé, il est parti aux États-Unis, puis en Amérique du Sud. Il est revenu à Tanger, et c'est là où il a commencé le trafic des cigarettes, des blondes, avec la fameuse affaire du Combinati.
Mmh.
Tanger était une base où se trouvaient tous les voyous, dont Manouche, la femme de Carbone.
Mmh.
Et tous les voyous en fuite s'étaient réfugiés à Tanger. Et de Tanger, ils lançaient des opérations à travers les Méditerranées, mmh, en direction de Marseille, avec le trafic des cigarettes blondes.
Petite question qui reste en l'air aussi. Il y avait un complice dans la villa? Quelqu'un qui a dit, la gare qu'en part, elle aura sa petite mallette, elle aura ses genoux, ils prennent telle route?
Non, alors ça, d'abord, ils prenaient toujours la même route. Ensuite, il y avait...
Sans protection.
Sans protection, oui.
Avec 220 patates.
Oui, alors il y avait Vincent Leoni, il y avait un Anglais, une espèce de... sorte de gabin, qui... gentleman d'Epson, quoi, qui fréquentait les...
La gare qu'en?
La villa.
La villa.
La villa, parce qu'il avait des...
Donc il a tuyauté.
Il avait des attentions pour une petite...
Une
sourette. Mmh. Et donc il a appris. Mais il a appris que lorsque la bégum se déplaçait, elle se déplaçait avec beaucoup d'argent. Alors, quand elle partait, des fois, il y avait pour 1 milliard de bijoux.
D'accord.
Et donc, le cas s'est trompé, parce que là, il pensait qu'elle... Mais là, elle allait
qu'elle
pas loin.
Elle allait juste à Deauville.
Elle a juste pris un petit peu.
Un petit diamant. Pourquoi est-ce qu'ils rendent les bijoux? Ça, c'est étonnant. Alors, l'avocat dit, c'est moi qui l'aurais conseillé, mais tant qu'à se faire condamner, autant garder les bijoux.
Oui, mais d'abord, il faut les revendre, après, les bijoux. Et ouais. Là, c'était difficile. Ils en ont vendu un, la fameuse marquise, c'était d'ailleurs amusant.
Retaillé.
Oui, la marquise, ça avait été offert par Louis XV à Pompadour, quand même, l'histoire de ce diamant. Et lorsque la BM a regardé ce diamant au tribunal, elle le portait tout juste, si elle n'a pas porté à ses lèvres. Il faut savoir que la marquise, elle a été récupérée par le commissaire Chenevier à Paris dans la braguette du receleur qui venait de la
récupérer.
Non, et puis qui venait de transformer un peu
de la taillotée.
Voilà, la taillotée.
Et il l'a acheté à qui, le receleur?
Ça venait de Marseille, du
directement,
groupe de Marseille.
Oui, de Polo.
Oui.
De Polo Lequin. Merci Jean Pax Méfray. Je pense qu'il n'y a absolument plus personne en France qui est capable de raconter cette histoire avec tous les détails que vous donnez. Je pense que vous êtes le dernier à la raconter. Non pas que vous l'ayez vécu directement, mais que ça vous ait passionné. Ça donne un livre que les fans pourront trouver sur Internet et chez les libraires.
Je crois qu'il est un peu pas... Ou il est en Kindle, en tout cas.
Maintenant. Il est en Kindle. Ouais, alors, s'il est en Kindle...
S'il est en Kindle...
Il est éternel.
Ceci à se faire.
Le vol des bijoux de la Begum, les dessous de l'enquête chez Pygmalion.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.